Encore merci Jean-Luc pour cette intervention. Donc je rappelle à ceux qui sont arrivés un petit peu sur le tard que la conférence est enregistrée, donc vous pourrez revenir, écouter un autre moment, le faire savoir et ajouter un dossier documentaire que Monsieur Bognol donc nous réalisera sur le sujet. On peut donc passer à la phase du débat, des échanges.
Merci. La citation que vous venez de faire à la fin, c'est complètement utopique, je crois. Alors, ce que je voulais faire remarquer, c'est la naissance du préjugé. Finalement, on fait appel à l'humain, on fait appel au cas. Alors, j'ai entendu dire que, il y avait des princes africains qui étaient reçus par le roi, Louis XIV, un personnage appelé Annie Abba. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas ce préjugé de dévalorisation. Il y avait même des négresses qui étaient châtelaines, épuisées par les Moyen-Âge. Vous avez cité comme une période. Alors donc, il y a des cas comme ça où l'ordre est bouleversé, il n'y a pas de préjugé. Alors aux Antilles même, il semble que certains historiens disent qu'il n'y avait pas de préjugé avant, au début. Est-ce que c'est un manque de femmes? En tout cas, les colons épousaient des négresses, des Amérindiennes, et les enfants qui naissaient, ils les reconnaissaient, ils les baptisaient, et se mariaient, même, je disais, avec il y a les cas, c'est toujours pareil, c'est l'humain, il y a les cas isolés. Bon. En lisant, enfin, un ami m'a fait lire le dernier chapitre de l'histoire de Guadeloupe, de La Cour. Et La Cour fait pratiquement l'historique de la naissance du préjugé. Donc il rappelle qu'il y avait des mariages avant et tout. Et puis il cite carrément, 1664, il y a un responsable qui débarque et qui dit, bon, l'histoire du mariage là, c'est fini, c'est un crime, c'est pas normal, etc. Et il cite encore 1685, un édit du roi, donc Louis XIV, qui dit, bon, c'est interdit, c'est pas... Non, c'est autorisé, pardon, c'est autorisé, mais le blanc qui fait ça, il déroge et tous ses privilèges lui sont retirés, ainsi qu'à sa descendance. Bon. Et la Cour termine en disant, bon, ben, on a tout fait. Alors, le gouvernement parisien, n'est-ce pas, n'arrête pas d'envoyer des recommandations au gouverneur pour leur dire, il faut absolument empêcher ça, parce que si, d'ailleurs, vous l'avez cité, pas de mariage avec les filles de couleur, etc., et même, vous avez cité, d'ailleurs, la Cour, là, il y a un passage, hein, si jamais les Blancs continuent à protéger leurs enfants, à la s'allier, c'est la fin des colonies, justement. Parce que les Blancs ont s'allié avec les mulâtres, qui sont de leur famille, on va se dire. Et puis, enfin, le roi ne peut rien faire, l'Europe ne peut rien faire contre ça. Les colonies vont devenir indépendantes, puisque ça fait un groupe social opposé à l'autorité métropolitaine. Voilà. Je ne vais pas être plus long, mais enfin, je voulais... Ah oui, une dernière peut-être remarque, c'est que ce qu'il dit est très vrai. Déjà à l'époque, n'est-ce pas? Il dit, le préjugé est installé dans les esprits et dans les mœurs. C'est très bien comme ça, mais il faut que ça continue. Alors ça continue même aujourd'hui. On pourrait vous citer un tas de cas de gens qui sont persuadés de la supériorité de la peau blanche. On peut trouver dans les romans de l'époque avant l'esclavage. Donc il y a beaucoup de nègres qui sont persuadés de la supériorité de la peau blanche, n'est-ce pas? Alors c'était déjà au XVIIe, n'est-ce pas? C'est dans les esprits et dans les mœurs. Bon, mais il ne faut pas que ça change. Voilà.
Voudrais juste faire une petite rectification historique. Le code noir du XVIIe siècle, le code noir de Louis XIV en 1685, n'interdit pas le mariage entre les races. Le préjugé de couleur est venu au XVIIIe siècle et pas au XVIIe, puisque tout au contraire, le code noir, qui sans doute n'a pas été beaucoup appliqué sur ce point comme sur d'autres, imposait aux maîtres qui avaient eu des relations dont est né un enfant avec une femme esclave de l'épouser, à condition que ce maître ne soit pas déjà dans les liens du mariage. C'est le code noir publié sous Louis XV, en je crois 1715, qui est revenu justement là-dessus et qui a interdit le mariage entre les maîtres et les esclaves, donc entre les maîtres et les populations de couleur. C'est juste pour insister sur le fait que c'est bien au XVIIIe siècle qu'est né le préjugé de couleur et que le rapport maître-esclave était fondé sur une relation différente de la relation de race.
Bon, alors merci de ces compléments et de ces précisions. Alors simplement, je voudrais faire remarquer que si effectivement, dans les premiers temps de la colonie, le préjugé semble absent, c'est que nous sommes à une époque où la plantation n'a pas encore véritablement exercé toute son emprise. Les premiers temps, je vous rappelle que c'est un temps de petits habitants qui se livrent à la culture du pétain, le tabac. Il faut attendre donc les années 1660-1670 pour que véritablement la canne à sucre commence véritablement à tenir le devant de la scène agricole. Et c'est petit à petit, effectivement, avec le développement de la classe, donc des planteurs, des grands habitants, que le préjugé va commencer à se développer. Alors le code noir, effectivement, n'est pas dans une logique raciale. Le code noir n'est pas dans une logique raciale, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, il prévoit que les affranchis doivent jouir exactement des mêmes droits que les libres. Et d'autre part, le maître qui corrompt son esclave doit effectivement l'épouser. Donc les mariages, là aussi, sont permis. Mais ce que l'on peut également dire, c'est que finalement, le code noir, en tout cas, quant à ce type de prescription que je pourrais appeler égalitaire, est devenu très vite lettre morte. C'est-à-dire que tous ces aspects du code noir sont finalement restés en quelque sorte, ont très vite été inactivés au profit d'un ordre ségrégationniste qui s'installe tout au long du XIXe siècle, avec effectivement un certain nombre de mesures qui sont prises. 1703, effectivement, c'est le fait que si un noble se marie avec une femme de couleur, il est déchu de ses titres. À partir des années 1730, il y a, par rapport aux libres de couleur, des interdictions professionnelles qui sont promulguées. Et puis, pendant toute la deuxième partie du XVIIIe siècle, toute une série de vexations du type interdiction de porter l'épée, interdiction d'aller dans certaines places au théâtre, interdiction de s'engager dans une conversation avec, de manquer de respect à un blanc, des choses de ce type-là. Donc on voit le développement d'un ordre ségrégationniste tout au long du XVIIIe siècle.